RFI 5h30 à Kinshasa, 4h30 à Dakar. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
À la une ce matin, une annulation.
Une mission d'experts des Nations Unies aurait dû se rendre à Goma cette semaine. Finalement, le M23, le groupe armé qui occupe la capitale du Nord Kivu dans l'est de la RDC, annonce qu'ils ne viendront pas. Pourquoi cette annulation? Que devaient faire ces experts? Explication dans un instant. Alors qu'à Kinshasa, des consultations en vue d'élargir le gouvernement ont débuté hier. Vous entendrez le président de l'Assemblée nationale congolaise. Dans ce journal également, le ton qui monte entre le Tchad et le Soudan. Alors qu'à l'inverse, le président mozambicain et son principal opposant semblent, eux, avancer sur le chemin de l'apaisement. Le Sénégal, le Fonds monétaire international, confirme que les anciennes autorités de Dakar ont bien caché une partie de la dette du pays. On en parle avec notre invité tout à l'heure, le chef de la délégation du FMI, qui confirme aussi le chiffre d'environ 7 milliards de dollars dissimulés. Et dans une dizaine de minutes, le journal des sports, avec les derniers matchs de la journée de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de football. 8 rencontres hier, 15 aujourd'hui. On suivra notamment la RDC, le Cameroun ou encore l'Afrique du Sud. C'est donc l'histoire d'une annulation d'une mission qui n'a pas lieu dans l'est de la République démocratique du Congo, région occupée par les hommes de l'AFC M23 soutenue par le Rwanda. Mission à l'initiative du Conseil de sécurité de l'ONU, mission d'experts qui aurait dû venir cette semaine à Goma, la capitale du Nord Kivu, 2 mois environ après la prise de la ville par le groupe rebelle. Les experts devaient vérifier si les sanctions internationales étaient bien respectées sur le territoire congolais, notamment l'embargo sur les armes, le gel d'avoirs ou encore des interdictions de voyage qui visent certains groupes armés et d'autres acteurs dans la région. C'est l'AFC M23 finalement qui a annoncé l'annulation de la visite sans la justifier. Précision et explication avec Patient Ligaudi.
C'est un message tombé au dernier moment, laconique, sans justification précise, si ce n'est la transmutation d'agenda évoquée par l'AFC M23. Le communiqué est arrivé alors que la délégation onusienne était déjà en route pour Kigali, dernière étape avant de rejoindre Goma. Cette mission devait pourtant aborder des sujets sensibles. D'abord, les revendications politiques de l'AFC M23 et les conditions d'un éventuel cessez-le-feu humanitaire. Autre dossier sur la table, les récentes arrestations de combattants des FDLR et d'autres groupes armés dans les régions sous contrôle de l'AFC M23. Certains de ces éléments ont été remis aux autorités rwandaises. Selon les informations des RFI, les experts de l'ONU s'intéressaient aussi au statut des militaires congolais, des policiers et même des groupes armés qui se sont rendus après les affrontements. Et autre sujet délicat, la gestion des ressources naturelles. Des questions devaient être posées sur la production, la commercialisation et l'exportation des minerais dans les zones contrôlées par l'AFC M23, notamment à Rubaya. Les experts voulaient savoir aussi quelles mesures sont mises en place pour éviter que des minerais interdits ou non traçables n'entrent dans les circuits commerciaux internationaux.
Patient Ligaudi. Et à Goma, la société civile a pris la parole hier, notamment pour soutenir l'initiative de dialogue lancée par les évêques catholiques et protestants et pour demander la démission du président congolais Félix Tshisekedi, décrit comme responsable de la situation actuelle dans la région. Alors que dans le même temps, à Kinshasa, ont commencé hier des consultations menées par Désiré Cachemire Bérandé, conseiller du président. Consultations en vue de former un gouvernement d'union nationale. Parmi les personnalités reçues hier, il y a notamment Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale congolaise. Et pour lui, l'enjeu, alors que la plupart des opposants ont décidé de boycotter ces consultations, l'enjeu, c'est bien d'identifier qui est susceptible d'apporter sa pierre à l'édifice.
Je lui dis clairement que le gouvernement d'union nationale devait être l'aboutissement d'un processus. Commençons d'abord par la cohésion nationale, retrouvons la paix ensemble et cherchons les acteurs qui sont à la mesure des défis du moment pour recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Et pour cela, la démarche est simple. Il faut d'abord identifier qui sont protagonistes. Si le terrain militaire, nous savons que c'est les M23, c'est le Rwanda. Et du côté de l'espace libre, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais nous avons aussi d'autres protagonistes non armés. C'est l'opposition non armée, mais aussi la société civile un peu politisée. Quand vous avez identifié ces acteurs-là, vous pouvez procéder par étapes. Commencez d'abord par mettre de l'ordre au sein de l'Union sacrée qui soutient le président de la République. La main tendue du président pourrait commencer par les organisations politiques de l'opposition qui le souhaitent ou qui l'acceptent. Autrement, prendre des individus qui seront rejetés, ça peut marcher.
Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale congolaise, au micro de Pascal Moulégua. Et sachez aussi à propos de la RDC que le ministre de la Défense congolais est en Afrique du Sud cette semaine. Pretoria, le principal contributeur de la force de la SADC déployée dans l'Est congolais, dont les soldats sont bloqués à Goma et dont le retrait a été annoncé. RFI, 5h35, à N'Djamena, au Tchad, le journaliste Olivier Monodji a été entendu par un juge hier. Olivier Monodji, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, également correspondant de RFI, à N'Djamena, arrêté au début du mois, accusé depuis d'intelligence avec une puissance étrangère. Audition donc hier par un juge d'instruction. Ce matin, son avocat se dit confiant et rassuré au vu du contenu du dossier. Le Tchad, où l'on se pose la question, la guerre au Soudan pourrait-elle déborder au-delà des frontières? On en est loin aujourd'hui, mais en tout cas le ton monte après qu'un général de l'armée soudanaise, commandant en chef adjoint de l'armée, a dit considérer comme des cibles légitimes les aéroports de N'Djamena et d'Amjaras. Déclaration perçue par les autorités tchadiennes comme des menaces explicites. Correspondance de Nadia Benmafoud.
Dans un communiqué publié dans la nuit de dimanche à lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères tchadien, Ibrahim Adam Mamat, condamne fermement des propos irresponsables, dit-il, qui peuvent être interprétés comme une déclaration de guerre s'ils sont suivis des faits. Plus tôt dans la journée de dimanche, le général Yasser Al-Atta avait déclaré « Nous nous vengerons de Mamat Kaka et nous l'avertissons, les aéroports de N'Djamena et d'Amjaras sont des cibles légitimes pour les forces armées soudanaises ». Fin de citation. Depuis plusieurs mois, Khartoum accuse régulièrement N'Djamena de fournir une aide militaire à ses adversaires, les forces de soutien rapide du général Emeti, ce que les autorités tchadiennes démentent. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a précisé que le Tchad se réserve le droit légitime de riposter avec vigueur à toute tentative d'agression contre le Tchad. Dans son communiqué, Ibrahim Adam Mahamat accuse les régimes soudanais d'avoir tenté de déstabiliser le pays, notamment en orchestrant des rébellions et en soutenant Boko Haram, tout en rappelant que N'Djamena a toujours choisi de ne pas répondre par la violence, avant de déclarer que le Tchad demeure fidèle à sa position de neutralité dans le conflit intersoudanais. Nadia Benmafoud, N'Djamena, RFI.
Et au Soudan, alors que l'armée nationale progresse dans sa reconquête de Khartoum, ces derniers jours sont marqués par des bombardements imputés au FSR sur la capitale soudanaise et sur les villes voisines. Au Soudan du Sud, on apprend que l'armée a bombardé hier soir une base de l'opposition armée près de Djouba, la capitale, alors que dernièrement, des combats avaient opposé l'armée à une milice présentée comme proche du vice-président au niveau de la ville de Nassir, près de la frontière avec l'Éthiopie. Et dans le même temps, le vice-président et opposant Riek Machar a écrit une lettre au secrétaire général de l'ONU pour dénoncer la présence des troupes ougandaises sur le territoire national sud-soudanais et des troupes venues épauler l'armée nationale sud-soudanaise. Les Nations Unies qui dénoncent de leur côté des attaques indiscriminées qui visent les civils et qui font savoir par ailleurs que le pays connaît sa pire épidémie de choléra ces 20 dernières années, avec 40 000 cas au total et plus de 700 décès ces 6 derniers mois. Au Mozambique, 6 mois après les élections d'octobre, le président Daniel Chapo et son principal opposant se sont enfin rencontrés avant-hier à Maputo, venant sur Mondlane, qui continue de contester le résultat de l'élection. Les deux hommes donc sont loin d'être d'accord sur tout, mais ils ont tout de même réussi à s'entendre sur plusieurs points et ils se sont tous les deux exprimés hier. Gaël Lalex.
Une rencontre cordiale, civile et fluide. C'est ainsi que Venancio Mondlane a qualifié ses échanges avec Daniel Chapo. Dans une vidéo sur Facebook, l'opposant affirme qu'un accord a été trouvé sur trois points majeurs. D'abord, la fin de la violence, qu'elle soit perpétrée par l'État ou bien nos partisans à l'encontre de la police et de ceux qui ne pensent pas comme nous, précise l'opposant. Ensuite, des soins gratuits et des indemnisations pour les victimes de la crise post-électorale ainsi que leurs familles. Enfin, la libération des manifestants arrêtés. De son côté, Daniel Chapo a déclaré qu'il fallait mettre un terme à la violence lors d'un déplacement à Lichinga dans le nord du pays. Le président rappelle qu'il est bon de penser différemment. Afin d'en finir avec les crises post-électorales, il promet également d'étudier de possibles modifications de la loi électorale. Cette rencontre suscite en tout cas de l'espoir du côté des entrepreneurs mozambicains. Agostino Vuma, président de la Confédération des associations économiques du Mozambique, espère qu'elle aboutira à un pacte pour la stabilisation du pays. Gaël Alex Nairobi, RFI.
Enfin, quelle politique pour la vanille à Madagascar. Le Conseil des ministres à Antananarivo a présenté la semaine dernière les chiffres de la filière et ils ne sont pas très bons dans un contexte où le prix du kilo de vanille a dégringolé, passant de 700$ en 2018 à 20$ attendu pour la prochaine campagne. Et que Madagascar a trop produit, il y a 2000 tonnes de vanille malgache en surstock, c'est plus de la moitié du total de ce qui a été acheté à travers la planète l'an dernier. Et les autorités d'Antananarive tentent de réguler le secteur et de contenter à la fois les acheteurs et les producteurs. Correspondance de Sarah Teto.
Depuis 5 ans, le gouvernement promet un assainissement de sa filière phare. La liste très attendue des exportateurs agréés pour cette nouvelle saison est censée évincer les opérateurs qui n'ont pas respecté les règles du jeu lors des précédentes campagnes. Dans les tuyaux également, un prix plus juste payé aux planteurs. En 2019, le tarif de 50 000 arrière le kilo de vanille verte avait fait consensus entre le SVI, le lobby des acheteurs internationaux de la vanille, et les acteurs malgaches. Aujourd'hui, dans les campagnes, les prix annoncés aux planteurs sont plutôt autour des 3 000 arrière, moins de 1 dollar.
Payer 3 000 arrières est indécent.
Georges Gerhardt est le président du groupement des exportateurs de vanille de Madagascar.
C'est moins que les tomates, alors qu'on a affaire à un produit qui nécessite beaucoup de soins et des années d'attente avant de produire. Donc, pour le bien de la filière et son futur développement, il faut absolument redresser ce prix minimum qui a déjà fait l'objet de nombreuses études et sur lequel beaucoup de gens s'accordent.
Rassurer les marchés sur la qualité intrinsèque du produit et sa durabilité, voilà la stratégie adoptée en ce moment par Madagascar. Mais il faut aller encore plus loin, soutien Georges Gerhardt.
Il y a un travail à faire sur des marchés émergents. L'Asie, le Moyen-Orient pourraient être intéressés par le produit vanille et sur ces deux axes, il faut absolument travailler.
Fin avril, un symposium international sur la vanille sera organisé à New York. À la une des discussions, un grand état des lieux du secteur. Aucun malgache n'a été invité, malgré les soubresauts dans la filière. La grande île reste le premier producteur mondial de l'épice. Sarah Teto, Antananarive, RFI.
À Madagascar, où il est bientôt 7h42, 5h42 ici à Paris.
Afrique Matin sur RFI.